non, ça va. J'en profite pour demander une dernière annonce, pour faire une dernière annonce. Le samedi 22 février, on va se retrouver avec quelques personnes ici pour une formation sur la prédication. Et certains ont des familles, et donc je voudrais faire un appel à l'église si quelqu'un a un peu de temps le matin ou un peu de temps l'après-midi pour venir s'occuper des enfants. Voilà, à l'église, donc ça ne veut pas dire organiser quelque chose, ça veut juste dire leur mettre un DVD, être là et s'occuper d'eux. Il y aura peut-être 4-5 enfants maximum. Voilà, donc si vous êtes dispo samedi 22 février, venez vers moi et puis comme ça je pourrai voir si vous pouvez venir soit le matin, soit l'après-midi, soit toute la journée. Je ne sais pas si les enfants, vous aimez vraiment, vraiment ça, mais. Voilà, ça peut être. On a ce besoin-là et je fais appel vraiment à la communauté pour nous aider. On peut afficher le diaporama. Donc, on est sur la thématique du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu spécifique qui est le don de prophétie. Alors, pour ceux qui ont raté. Le message de la semaine dernière, allez le réécouter, il est super. Et Pierre nous a présenté le royaume de Dieu comme étant spirituel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est spirituel et l'établissement physique du royaume de Dieu, comme l'attendaient les Juifs à l'époque de Jésus, ne viendra qu'à la deuxième venue de Christ sur la terre. En attendant, nous ne pouvons pas le chercher physiquement, avec nos sens humains. On peut relire Jean 18. « Mon royaume, c'est Jésus qui parle, il dit, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que nous avons besoin de révélation pour accéder au royaume de Dieu, pour le comprendre, pour même vivre dedans. Sinon, nous allons vivre dans le royaume de Dieu comme ça. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se diriger, de diriger sa vie alors que nous ne voyons pas. À moins que vous ayez la capacité de voir les choses spirituelles en permanence. Moi, je ne l'ai pas, et donc j'ai besoin de révélation de la part de Dieu. Et une des manières dont Dieu se révèle et nous donne des révélations, c'est au travers du don qu'on appelle le don de prophétie. La réalité du royaume de Dieu, elle est cachée à l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que je crois que Paul a déclaré aux Corinthiens « Je désire que vous parliez tous en langue. » S'il y en a qui ne parlent pas en langue ce matin, on peut prendre le temps après le moment de culte pour prier pour cela. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Et c'est notre désir aussi pour cette communauté. Mais encore plus, encore plus que tous, Paul fait des jeux de mots parfois, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors c'est quoi ce don de prophétie ? C'est quoi ? Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, c'est sûr que ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais de quoi il est en train de parler ce matin ? Dieu est vivant. Déjà la première bonne nouvelle. Il n'est pas resté dans le tombeau. On a pris la Sainte-Seine. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il nous parle. Il est vivant. Il n'est pas mort. Et parce qu'il parle, eh bien, nous l'entendons parler. Alors c'est quoi ce don de prophétie ? Dans 2 Pierre 1, on voit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc ce n'est pas une volonté d'homme, le don prophétique. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'accord ? Ce n'est pas une volonté d'homme, c'est poussé par le Saint-Esprit et nous parlons de la part de Dieu. Le don prophétique trouve sa source et son inspiration dans la pensée de Dieu, par opposition à la volonté de l'homme. Elle révèle des choses cachées, des choses qui ne sont pas accessibles directement à la pensée humaine. Et je dirais même, ce don tend à court-circuiter la volonté, la pensée de l'homme pour amener une révélation dans nos vies. Alors, une des manières de définir ce que c'est qu'une chose, c'est de dire ce qu'elle n'est pas. Donc je vais dire deux choses que le don prophétique n'est pas, tout du moins dans le Nouveau Testament. Le don prophétique ne remplace jamais l'Écriture. Ça ne remplacera jamais la Bible. La grande prophétie immuable est celle de l'Écriture. Le don, lui, puise dans l'Écriture pour apporter des choses spécifiques et les appliquer à notre vécu d'aujourd'hui, au vécu du moment. Le don de prophétie actualise, j'ai mis, la parole vivante de Dieu, mais ne s'y substitue jamais. D'accord ? On n'est plus dans l'Ancienne Alliance où la parole prophétique était 100% parole de Dieu et donc elle véhiculait la parole de Dieu et l'Écriture. Aujourd'hui, ça n'est plus cette fonction-là. Elle ne s'y substitue jamais, mais elle sert à l'actualiser. Par exemple, si on prend dans Romains 11, verset 2, il est dit « Dieu n'a pas rejeté son peuple ». Quelle belle parole de l'Écriture. Alors, on peut donner ce verset simplement pour encourager quelqu'un qui vit une situation de rejet. Et ça fonctionne, vous êtes d'accord ? Quand on reçoit un verset, ça fonctionne, ça nous fait du bien. Mais on peut aussi l'appliquer de manière beaucoup plus spécifique. Et je me souviens, quand j'ai pris cet engagement, donc je m'appelle Farid, moi aussi, Ismaël, quand j'ai pris cet engagement de suivre le Seigneur et de partir faire une formation biblique, eh bien, mon père m'a mis à la porte. J'arrive dans... C'était à côté de Paris, j'arrive là-haut, et puis un jour, on a... une semaine un petit peu sur le prophétique, et puis quelqu'un qui avait un don assez particulier est venu. Il pose la main sur moi pour prier pour moi, et la première chose qu'il me dit, Dieu ne t'a pas rejeté comme ton père t'a mis à la porte. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la vérité de la parole de Dieu et il me l'a appliquée à ma situation d'aujourd'hui. D'accord ? Et c'est à ça que sert le don prophétique. Ça ne va pas remplacer l'Écriture, mais ça va prendre de l'Écriture et ça va l'appliquer à ma vie pour faire un certain nombre de choses qu'on va voir après. La deuxième chose que le don prophétique n'est pas, et ça aussi c'est très important, c'est qu'il n'est pas parole absolue. D'accord ? La prophétie de l'Écriture est parole absolue. Le don prophétique du Nouveau Testament n'est pas absolu. Il est exercé par des hommes et des femmes faillibles, qui restent soumis à l'erreur, aux mauvaises interprétations, aux émotions. Ce don, comme tous les autres, s'exerce en accord avec la foi et comme nous le dit Paul dans la lettre aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Donc le don prophétique est exercé, il n'est pas parfait, et c'est pour ça que la Bible nous encourage à examiner le don prophétique, et surtout à ne pas l'éteindre, mais à garder avec soi, à retenir ce qui est bon. Alors comment est-ce que l'équipe d'anciens responsables veut que nous exercions ce don dans l'Église ? Eh bien, premièrement, on veut que tout le monde le pratique. C'est ce que nous aspirons, que chacun de vous, chacun de nous, puissions mettre ce don merveilleux en pratique, comme les autres dons, bien sûr, mais celui-là en particulier, il a une note particulière, je trouve. Et comme tous les autres dons, eh bien, il est géré dans l'Église. D'accord ? Il n'est pas juste exposé, mais il est géré, examiné, Paul dira, par alors ce que nous on appelle la présidence du culte. David a présidé le culte ce matin, et c'est ce qu'il a fait. Il a géré les dons qui se sont manifestés, et le président est là pour gérer le don prophétique. Certaines églises ont fait le choix soit d'interdire l'expression de ce don, ce qu'on appelle les églises non charismatiques, soit le réserver à certains. On en fait des professionnels, et eux, ils ont le droit d'amener, d'exercer ce don, et puis les autres, pas. Et souvent, alors parfois c'est par décision théologique, mais là, bon, c'est autre chose, souvent c'est à cause de la difficulté à gérer ce don-là. D'accord ? Soyons conscients que ce n'est pas toujours évident. Ayons compassion de celui qui est en présidence, parce que ce n'est pas évident de gérer ce don-là. Et combien c'est plus facile de dire, hop, je le mets de côté et je dirige d'une manière rigide. Mais non. Ce n'est pas ce que nous voulons ici. Nous voulons l'expression forte de ce don, mais nous voulons aussi apprendre à le gérer. Et il ne faut pas y voir, le fait qu'il soit géré, une volonté de le limiter, ce don. D'accord ? Ne voyons pas le fait qu'il soit géré comme une boîte que l'on voudrait mettre à la parole que Dieu donne. Ce n'est pas du tout ça, et c'est ce que je vais développer dans un deuxième temps. Mais c'est juste une protection et un accompagnement dans cette pratique. Rappelons-nous, elle n'est jamais parole absolue et elle est donnée par des hommes, et il est exercé par des hommes et des femmes faillibles. Enfin, et la dernière chose par rapport à ça, c'est que la personne qui prophétise, elle n'est jamais seule. D'accord ? Dans le Nouveau Testament, la personne qui pratique un don, elle fait partie d'une communauté. Et c'est cette communauté qui discerne la volonté de Dieu ensemble afin de retenir ce qui est bon. D'accord ? Ça vous va ? Je vous sens un petit peu endormi. Non ? Super. Attentionné. Le don de prophétie, pour moi, est un don excellent donné par Dieu pour construire son Église. Il est donc incontournable. Parfois, on entend, oui, moi j'y crois, mais je ne pratique pas. On entend ça dans des églises. Et pourquoi ? Parce que théologiquement, c'est compliqué de dire que les dons se sont arrêtés et qu'aujourd'hui, ça ne se pratique plus. Alors, qu'est-ce que font l'autre biais de cette théologie-là ? C'est de dire, on y croit, c'est biblique, mais nous choisissons de ne pas les pratiquer. Moi, nous prenons cette position dans l'Église de dire que les dons sont incontournables. Incontournables, pour la bonne et simple raison que Dieu a les meilleurs outils. Que moi, je ne peux pas construire l'Église. Alors, ce que je peux faire, c'est avancer la liste de Xavier, qui est notre liste à tous. Mais je ne peux pas construire l'Église spirituelle de Jésus avec mes outils à moi. J'ai profondément besoin des outils que Dieu me donne, et donc du don de prophétie. Alors selon la Bible, à quoi sert ce don ? Pour nous donner un cadre dans l'exercice de ce don, eh bien, 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, et qu'est-ce qu'il fait ? Il les édifie, il les exhorte, et il les console. Le premier rôle de la prophétie, c'est d'édifier, c'est de construire quelque chose à l'intérieur de quelqu'un. Le don est manifesté non pour humilier, reprendre publiquement ou pour prendre autorité, et parfois on a vu l'exercice de ce don comme cela, et c'est une mauvaise gestion de ce don. Le don va d'abord chercher à construire dans la vie de quelqu'un ou même dans l'Église. Il est donné pour faire se tenir debout. D'accord ? Pour affermir, pour donner de la force et du courage, pour donner à quelqu'un ce qui lui manque dans une situation donnée, dans sa vie, pour faire quoi ? Pour avancer vers Christ, debout, solide. La deuxième chose, je ne sais pas si on voit bien les racines qui se donnent la main, mais il exhorte, c'est ça l'exhortation. L'exhortation, David avait fait un super message dessus, c'est un encouragement à demeurer ferme dans la volonté de Dieu. D'accord ? C'est ça l'exhortation. C'est « je t'encourage, tiens bon, tiens bon ». C'est encourager à marcher selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu. L'exhortation, en général, elle va chercher dessous, elle va chercher les fondations pour voir si la personne est bien posée sur la seule qui va tenir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le don n'est pas là pour placer les gens ou les églises devant un tribunal où sont exposées des fautes et des péchés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça l'exercice du don, de ce don-là. L'exhortation n'est pas non plus l'exposition d'une sentence ou la mise en place d'une condamnation, comme on peut entendre parfois. L'exhortation doit conduire à l'inverse, à libérer les personnes, à libérer de la condamnation et du péché. D'accord ? Paul dira, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Et enfin, le troisième volet de la prophétie, du don prophétique, c'est qu'il véhicule, il console. D'accord ? La prophétie, elle édifie, elle exhorte et elle console. Elle véhicule l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, sa miséricorde et sa grâce. D'accord ? Elle n'est pas là pour apporter un jugement, pour être dure envers quelqu'un. Peut-être que Dieu peut me révéler le péché de quelqu'un, mais je ne vais pas arriver avec une massue et aller taper dans la personne avec ça. D'accord ? C'est pas ça le cœur de Dieu. Dieu, il ne fait pas comme ça. Dieu, il est ému de compassion et il manifeste sa consolation. Il console les cœurs brisés. Le don prophétique donne des solutions quand tout semble perdu. Il permet d'espérer contre toute espérance, comme disait Abraham. Il participe à cet élan merveilleux de l'esprit qui veut quoi ? Nous rendre joyeux. Amen. Et c'est comme ça que nous voulons voir le don prophétique exercé au milieu de nous. Véhiculer une immense joie parmi le peuple. Amen Seigneur, Saint-Esprit. Viens nous visiter Seigneur. Viens Seigneur. Merci parce que tu es vivant et vrai Seigneur. Et nous accueillons Seigneur le don de prophétie au milieu de nous Seigneur. Tel que tu veux qu'on l'exerce Seigneur. Il y a d'autres aspects à la prophétie, c'est sûr. Comme celui de donner une vision élargie, prendre de la hauteur, voir plus loin que là où on est. Ou encore révéler, encourager à suivre l'appel et les plans de Dieu. Mais je ne voudrais pas passer du temps sur ça ce matin, je voudrais passer du temps sur autre chose. Et on va prendre Exode 38. Alors je sais que ces passages-là de la Bible, en général, on ne les aime pas. Mais ce matin, je vais vous les faire aimer. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. Il était carré, sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel, il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes, les brasiers. Et fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Ça va, vous êtes toujours là ? Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il fit le creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases, etc. etc. Tu peux passer. toutes les toiles formant l'enceinte du parvis. Bon, et ça décrit, et ça décrit, et ça décrit. Et à la fin, il est dit que Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Où je veux en venir ce matin? On parle du don prophétique et je sors un texte comme celui-là. En général, on les zappe, non? Vous faites... Ah, ça y est, j'ai lu ma Bible. Eh bien, je commence à m'émerveiller face à ces textes-là. Pour moi, c'est le pot-au-feu de ce matin. C'est juste incroyable, le choix de ce matin, parce que c'est clairement là où je veux en venir. Waouh ! Dieu a parlé, et combien c'est précis. Combien c'est précis. Waouh ! Est-ce qu'on se rend compte ? Dieu a parlé, et vous avez vu tout ce qu'il a donné comme détail ? C'est juste incroyable. Je suis juste, waouh Seigneur, merci d'avoir mis tous ces détails dans la Bible. Merci. Je vais peut-être continuer à les lire rapidement, mais je vais dire waouh. Waouh Seigneur, tu es juste incroyable de précision, de précision. Waouh. Tout ce qu'il y a ce matin, c'est ça la prophétie. Je voudrais qu'on retienne une seule chose, c'est celle-là. Waouh ! La prophétie, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est tout ça. Et c'est hyper, hyper précis. Dieu met en perspective, il décrit les matériaux, les couleurs, les dimensions. Waouh ! Et je crois qu'on peut grandir dans notre foi en ouvrant la possibilité à ce que Dieu parle de cette manière-là, avec précision. La norme n'est pas que 90% des prophéties soient hyper vagues et que de temps en temps, on a des paroles précises. Dieu parle de manière précise, il révèle de manière détaillée et il dirige avec plein d'instructions. Il envoie dans le service en avertissant précisément. Romains 12, on a ce verset qui dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, en accord avec la foi. J'ai envie de dire ce matin, où plaçons-nous notre foi? Si nous croyons que la prophétie n'existe pas, eh bien, nous ne pratiquerons jamais ce don-là. Si ta foi ce matin, c'est qu'elle n'existe pas, ce don n'existe pas, tu ne pratiqueras jamais ce don-là. Si tu penses que prophétiser, c'est rester toujours très vague, eh bien, tu vas prophétiser en restant toujours très vague. Et ce que je voudrais nous encourager, c'est à prophétiser selon la Bible, selon ce que l'Écriture nous dit. Et on va plonger un petit peu les regards dans le Nouveau Testament pour cela. Jean 1, 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais où ? Sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus n'est pas vague. Il ne lui a pas dit tu étais sous un arbre. Il ne lui a pas dit tu étais en train de rêver. Il lui a dit tu étais sous un figuier et je t'avais déjà vu. Ensuite, dans Jean 4, il rencontre une dame, la Samaritaine, et elle lui dit... Et il lui dit « Va chercher ton mari » et elle lui répond « Je n'ai point de mari ». Et au verset 18, Jésus répond « C'est vrai, pourquoi ? Parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Réponse de la Samaritaine « Je vois que tu es prophète. » Très précis. Luc 19. Hop. Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, amène-le. Quelqu'un va venir vous demander, mais pourquoi voulez-vous l'utiliser ? Et vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Encore une fois, Jésus prophétise et il donne plein de détails sur ce qu'il va se passer. Matthieu 26, ben, ce verset très connu, quand il dit à Pierre, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras. » Non, il précise, « Tu me renieras trois fois. » Acte 9. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül. » Et qu'est-ce qu'il est ? Pourquoi ? Parce qu'il est en train de prier. Waouh ! Est-ce qu'on n'est pas dans Exode 38, là ? Où on nous donne plein de détails. La parole prophétique est pleine de détails. Et tu iras lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Acte 21, c'est le prophète Agabus qui prend une ceinture qui appartenait à Paul et il se lie les mains et les pieds. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, eh bien voilà ce qui va lui arriver. Les Juifs le lieront et de la même manière, où ça, là encore, Paul n'était pas à Jérusalem, d'accord, quand ça s'est passé, ils le lieront à Jérusalem et le livreront entre les mains à Jérusalem, mais pas des Juifs, des païens. D'accord ? Très précis dans ce qui allait se passer. Et après celui-là, nous avons bien sûr le livre entier de l'Apocalypse. Peut-être qu'on peut le voir aussi un peu dans cette lorgnette-là. Waouh ! Que de détails, non ? C'est un livre prophétique, c'est le livre prophétique du Nouveau Testament. C'est une prophétie, ce livre. Waouh ! Waouh ! Et ça finit avec plein de détails. Ça commence avec plein de détails et ça finit avec plein de détails. Voilà la Nouvelle Jérusalem. J'ai pris mon mètre et j'ai mesuré. Voilà, comme ça, voilà les couleurs, voilà les pierres, voilà. Waouh ! Seigneur ! Quand j'étais jeune chrétien, on m'a encouragé à exercer le don prophétique et c'était super. Toutefois, on m'expliquait que c'était normal de commencer par des choses très générales. Alors la prophétie classique, c'était « je vois un bouquet de fleurs, chaque membre de l'Église est ce bouquet ». Tout le monde a peut-être entendu ce genre de prophétie, d'accord ? Alors, je ne veux pas dire que c'est mal, hein. Attention, ne me méprenez pas sur ce que je dis, mais je pense qu'on peut s'encourager à plus que ça. Je voudrais que notre foi se base sur ce que la Bible fait et sur ce que la Bible montre de ce qu'est le don prophétique. Et il peut être extrêmement précis, pointu. Je me rappelle, après quelques semaines, justement, où on m'avait encouragé à prophétiser, on était en train de prier avec Astrid à l'époque, et où on était dans une situation financière un petit peu difficile. Et je me mets à prier, je viens d'un arrière-plan pas du tout biblique, donc je ne connaissais pas la Bible, et puis je reçois un mot comme ça, et je dis, ben, écoute, je ne sais pas ce que je reçois le mot « man », mais alors je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Alors elle se met à se moquer de moi, forcément, parce que pour quelqu'un qui lit un petit peu, c'est un des premiers mots que l'on connaît, et je lui dis, mais attends, Dieu me dit, c'est le pain qui descend du ciel. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et je ne connaissais pas ce que c'était, mais Dieu m'avait donné une parole précise par rapport à notre situation, et il m'avait expliqué, et puis après elle m'a expliqué que, ben oui, c'était exactement ça. La manne était le pain pourvu par Dieu dans le désert. Dieu parle de manière précise. J'ai une amie qui m'a fait rire, qui aussi, à l'époque, elle croyait aux dons prophétiques, mais voilà, calme, très calme. Et puis un jour, elle se retrouve devant quelqu'un qui avait un don assez pointu, et la personne commence à lui donner tous les numéros de sa carte vitale, de son numéro de sécurité sociale. Même elle ne le connaissait pas, elle a dû prendre sa carte vitale pour comprendre que c'était à elle. Et tous les numéros. Avec Aline et Marie, quand on est allé à Montpellier, C'était aussi génial de prophétiser sur une personne qui n'était pas encore à Christ. Et alors, on commence à prier pour elle. Et alors qu'on commence à donner certains détails assez précis sur sa vie, elle nous arrête. Elle dit « Non, non, arrêtez là, mais d'abord, je voudrais que vous me disiez quelque chose. Qui vous a raconté ma vie ?» Les détails et la précision sont importants, je crois. Parce que si, quand ils sont présents, ils sont tels que la personne ne peut qu'admettre que Dieu s'adresse à elle. 1 Corinthiens 14. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est alors convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Osons prophétiser. Si c'est vague ou très général au début, c'est OK, d'accord ? Je ne veux pas vous bloquer. Ce n'est pas du tout ça le but de ce matin. Partage ce que tu reçois. Va voir la présidence lors des réunions. Partage avec quelqu'un qui est à côté de toi. Partage. Mais ose entrer dans une dimension plus grande de la prophétie. Osons prophétiser avec des détails et parfois avec beaucoup de détails. Oui, nous allons nous tromper. Et c'est OK. C'est OK. Si ce matin, on était venu voir David avec quelque chose qui n'était pas juste, c'est OK. On a le droit. D'accord ? Autorisons-nous à ça. Pourquoi ? Parce que nous voulons rentrer dans l'exercice du don bibliquement. Celui qui va aller pointu dans les détails. Oui, l'homme et la femme sont faillibles, mais le don de Dieu est tellement excellent. C'est tellement excellent quand, enfin, c'est super précis. Et pour moi, le délice qu'il produit est tel que ça vaut le coup de franchir toutes les barrières, la peur, la honte, mais aussi toutes les erreurs. C'est pas grave. Nous assumerons. Nous assumerons.